Bonsoir, la bibliothèque en vadrouille est donc en ce 14 octobre chez Jean-Hubert Sittler que nous rencontrons. Alors Jean-Hubert, nous te connaissons un petit peu, je te connais un petit peu puisque tu es un adhérent, un abonné fidèle de la médiathèque. Bonsoir Jean-Hubert.
Bonsoir Fabien.
Et abonné, mais je dirais pas seulement, tu es, on va dire, et les choses dans l'ordre, ancien enseignant, ancien professeur d'art plastique durant plusieurs années à l'Institut Sainte-Marie de Belfort, et artiste, peintre, moette, proférateur. Et donc aujourd'hui, ce soir, pendant ce petit temps d'échange, nous allons évoquer la mémoire d'un de tes amis d'enfance. Je te laisse dire son nom.
Gérard Griset.
Et donc, avant de débuter, je voudrais débuter justement l'entretien par une lecture extraite du Dictionnaire de la musique du XXe siècle de Jean-Noël van der Weyde, qui est un critique suisse, édité en 2005 chez Hachette. Et c'est la notice grisée dans laquelle il écrit ceci. Le principal représentant du courant spectral, authentique et obsédant musicien, qui s'échigna la vie au devenir sonore, à l'écologie, à l'identité du son, considéré comme un être vivant, se mouvant dans le temps et dans l'espace. En 79, Griset déclare, d'abord prenant le son au sérieux, si nous n'apprenons pas à jouer avec lui, il se jouera de nous. Il définit ensuite sa nouvelle esthétique, nous sommes des musiciens et notre modèle, c'est le son, non la littérature, le son, non les mathématiques, le son, non le théâtre, les arts plastiques, la théorie des cantats, la géologie, l'astrologie ou l'acupuncture. Voilà. Alors, peut-être que tu peux nous évoquer peut-être immédiatement retour dans les années fondamentales de la rencontre de l'enfance. Vous étiez ensemble à l'école, si je ne dis pas de bêtises. Vers quelle année ?
Alors, ça a dû se passer dans les petites classes qu'on appelait alors donc pour le primaire, 11e, 10e, 9e, etc. Donc, on devait avoir dans les 7-8 ans, voilà.
Et là, donc, tu as retrouvé une photo justement dans tes archives qui est assez émouvante, puisque c'est une photo dans la cour de cette même institution Sainte-Marie que l'on connaît.
Exactement, oui.
Alors, est-ce que tu avais déjà décelé une créativité, pourrait-on dire, précoce chez cet individu ?
Ce que je peux dire, c'est dans mon souvenir, dans ma mémoire, c'est que c'était un petit garçon très vif, avec son casque de cheveux doré, si on peut dire, et qui jouait de l'accordéon, voilà, aux distributions des prix. Voilà, donc je le vois encore sur un haut tabouret à, je sais pas, 10-11 ans, jouant de l'accordéon, disons, comme Yvette Horner, sinon mieux. Voilà, donc voilà le... La première image qui me revient est donc, nous étions compagnons de jeu près de chez lui, dans un bourg attenant à Belfort, et nous jouions dans les terrains vagues appelés le Champ de Mars, voilà, qui est maintenant construit. J'ai été quelques fois chez lui à ce moment-là aussi, et donc nous avons parcouru... notre scolarité ensemble, disons à mon avis jusqu'à la première ou la seconde. Mais par après, il a dû bifurquer et donc je l'ai perdu de vue.
Alors maintenant, on va rentrer, je dirais, un peu plus en détail sur le cœur de ce qui est de l'œuvre de Griset. Et je vais poursuivre la lecture de cette même notice que l'on doit donc à Jean-Noël van der Weyde. Et il recite à nouveau Griset. « En entendant que des musicologues avisés nous collent une étiquette réductrice et approximative, je propose trois épithètes pour cette musique. » Donc Griset lui-même les qualifie de la manière suivante. « Différentielle, parce qu'elle tente d'intégrer toutes les catégories du sonore en révélant leurs qualités individuelles, mais en évitant à la fois la hiérarchisation et le nivellement. La différence acceptée, comme fondement, nous permet d'organiser des tensions. La musique est alors le devenir des sons. » Ensuite, liminale, parce qu'elle s'applique à déployer les seuils où s'opèrent les interactions psychoacoustiques entre les paramètres et à jouer de leur ambiguïté. Enfin, transitoire, parce qu'elle radicalise dans un premier temps le dynamisme du son, compris comme un champ de force et non comme un objet mort, et qu'elle vise dans un second temps à sublimer le matériau lui-même au profit du pur devenir sonore. Alors, il faut tout de suite dire aussi que nous sommes complètement ce soir en compagnie de Gérard Quézet, puisque tu as choisi de nous accueillir pour cet entretien dans l'écoute même de son œuvre.
Oui, nous écoutons en ce moment Vocter Temporum, qui est considéré comme un de ses chefs-d'œuvre, et même maintenant un des chefs-d'œuvre de la musique d'aujourd'hui. Et donc, voilà, j'ai vu également cette musique utilisée pour la chorégraphie de Teresa von
Kersmacher,
exactement, à Dijon, dans une chorégraphie extraordinaire. Elle a vraiment senti toute la profondeur de la musique de Griset, et je me rappelle en particulier du piano qui fait partie de la composition et qui était poussé par un danseur en même temps que le musicien jouait de ce piano, et il y avait une espèce de circularité, le piano tournait au milieu des danseurs et de la scène. C'était fabuleux.
Alors, Vortex Temporum, qui signifie tourbillon du temps,
oui,
et qui a été créé par Griset en 96, et donc transposé, pourrait-on peut-être dire, par De Kersmacher dans une version chorégraphiée en 2013. Alors, et on va poursuivre justement, puisque j'avais relevé une très belle citation de Kersmacher à propos de cette œuvre. Elle dit avoir été fascinée par cette temporalité liquéfiée, et là on rejoint bien ton image par rapport à ce souvenir du piano, dit-elle, où la pulsation vacille et se dissout. Alors, je sais par ailleurs, Jean-Hubert, puisqu'on se connaît et on discute souvent lorsque tu viens à la médiathèque, et c'est fort agréable justement de pouvoir échanger sur la musique contemporaine, puisque tu empruntes souvent nos disques, que par ailleurs, ton papa était un journaliste et critique musical. Alors, peut-être une question un peu générale par rapport à ces origines-là te concernant, et puis en plus, parce qu'il faut préciser que tu as signé le texte hommage à Gérard Griset au moment de son décès en 98 dans l'Est républicain, c'est toi qui as signé ce texte. Mais donc, penses-tu que Griset occupe une juste place aujourd'hui, en 2015, dans l'histoire de la musique contemporaine mondiale et française?
Oui, dans l'histoire de la musique, il n'y a pas de doute, il occupe une place marquante, mais par rapport au public, ne parlons pas du grand public, il est encore trop méconnu. On parle beaucoup d'autres musiciens qui sont venus après lui, du Sapin, etc. Mais lui, de par, je crois, son caractère, sa façon d'être un artiste vraiment, je dirais, un vrai, quoi, vraiment l'artiste pur, il n'a jamais donné dans la médiatisation, donc ça a peut-être joué dans le fait que même de son vivant, à mon avis, il n'a pas été reconnu. Et discutant avec des musiciens d'orchestre, certains m'ont dit qu'il en était peut-être un peu amer.
Alors, maintenant, pour poursuivre, je vais proposer une nouvelle lecture d'une notice d'œuvre rédigée par Griset lui-même dans l'icône paradoxale. Et il dit ceci, qui, je pense, fera le lien avec également pas mal d'éléments dont nous avons discuté depuis le début de cet entretien. La mise en abîme des sons que je pratique depuis plusieurs années n'est pas sans rapport avec la perspective telle que la redécouvre la peinture renaissante et particulièrement Pierrot. Outre le nom de Piero della Francesca, le texte utilisé est celui-ci, en italien, de son Perspectiva Pingendi. Plus loin, il poursuit, au geste violent des anges, écartant le rideau et à l'arrondi du dé, répond le geste des doigts, écartant la robe et l'arrondi de celle-ci. Un espace s'ouvre sur un espace qui s'entr'ouvre, l'infini est suggéré. Sans doute, ma fascination n'est-elle que projection, car ma musique depuis longtemps joue elle aussi sur les correspondances et la mise en abîme, de temps radicalement différents, le temps des baleines, le temps des hommes, le temps des oiseaux. Alors, que t'évoques ces quelques lignes de Gérard Griset que je viens de lire?
Ben oui, je me rappelle que, l'ayant revu beaucoup plus tard, pas assez d'ailleurs, il nous parlait de ces différentes temporalités qui viennent d'être cités. Voilà.
Et pour découvrir peut-être une œuvre, parce que son œuvre est, tu disais, complexe, est-ce qu'il y aurait un morceau, outre celui-ci, la Vortex Temporum que nous écoutons en ce moment, que tu voudrais nous conseiller pour peut-être rentrer, pour un néophyte justement, qui voudrait rentrer dans l'œuvre de Grisé? C'est difficile comme question, je l'imagine. Ouais.
Bon, alors il y a les fameux espaces acoustiques, là, qui est un peu pas le résumé, mais qui est un ensemble de ces premières, de ces expérimentations, qui peut être une entrée valable, je crois. Ensuite, il me semble que il y a le fameux, donc son dernier morceau là, qui s'intitule Quatre chants pour franchir le seuil, si je me voilà, et qui sont pour moi une apothéose de vraiment le requiem du 21e siècle. Enfin, je le mets au niveau des, et pas que moi, enfin sont les spécialistes, hein, je ne suis pas spécialiste, des requiem de Mozart et d'autres.
Très bien. Alors, juste pour être complet dans les références qui ont été apportées au cours de cet entretien, je voudrais ajouter en conclusion que le passage lu au moment où Grisé donne des épithètes pour qualifier sa musique est extrait d'une conférence qu'il a prononcée en 1982 à Darmstadt. Et là aussi, peut-être un dernier mot, Jean-Hubert, sur le compagnonnage de Grisé avec un certain nombre de compositeurs internationaux d'envergure qui ont côtoyé ce fameux institut à Darmstadt, qui a vu passer entre autres Stockhausen.
Oui.
Voilà.
Bon, alors il répétait souvent qu'il pour lui il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc le Père Messian, le Fils Stockhausen et le Saint-Esprit Ligeti.
Ben, je crois que ça peut être le mot de la fin, comme on dit, en te remerciant infiniment, Jean-Hubert, d'avoir pris ce temps. Et on va laisser quelques notes encore de Grisé.